chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne. Vous êtes dans l'émission Ma ville, ma région. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec Madame Vanessa Vézan, vice-présidente de l'Université Bourgogne, déléguée au handicap, à l'inclusion et aux solidarités. Bonjour Madame Vézan.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous invitons pour parler d'un dispositif, je crois que c'est le mot qu'on peut utiliser, très original, très complet, qui est piloté par une commission qui s'appelle la commission Solidarité, étudiante de l'Université de Bourgogne. Et j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu rapidement les fondamentaux de cette commission.
Alors, avec grand plaisir. Donc, la commission Solidarité étudiante, elle est effectivement unique en France, voire en Europe. Donc, c'est en fait effectivement plusieurs dispositifs qui sont là pour aider l'étudiant qui peut se retrouver en difficulté, donc en précarité. L'idée, c'est d'aller jusqu'au diplôme, de rien lâcher. Et pour ça, on va mettre en place toute une batterie, finalement, de dispositifs pour l'aider à aller jusqu'au bout. Donc, je peux vous détailler ces dispositifs, vous expliquer également comment est née cette commission solidarité, puisqu'elle est quand même assez récente, elle n'a que 4 ans.
Alors, peut-être commencer par là en rappelant, en gros, le nombre d'étudiants et la géographie de votre université, en quelques mots.
Tout à fait. Donc l'Université de Bourgogne, c'est 35 000 étudiants, 6 sites universitaires, donc 90% des étudiants sont sur le site de Dijon, mais il y a également 3 sites en Saône-et-Loire, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, il y a également un site à Nevers et un site à Auxerre. Donc en fait, on aide les étudiants de tous nos campus.
Très bien. Donc, et l'histoire de cette commission ?
Alors en fait, elle est née d'une discussion avec une collègue de sport qui nous dit « qu'est-ce que vous allez faire la nouvelle équipe de gouvernance pour les étudiants qui dorment à la rue ?» Et là, on se dit « quoi, il y a des étudiants qui vivent dehors ?» Donc à ce moment-là, on est un peu choqués, on est élus et on avait fait cette promesse que si on était élus, on s'attellerait vraiment à ce dossier-là. Donc on est élu, 3 jours après, on est confiné, c'est le Covid. Ah. Donc donc la précarité, ce n'était pas nouveau. Il y avait à l'époque 150 étudiants qui étaient connus pour être en difficulté. Le Covid arrive et là, c'est la catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'ils perdent leur emploi. Et pour 70% des étudiants, avoir un emploi, c'est primordial pour vivre. Et donc, effectivement, toutes les associations humanitaires nous appellent en disant « Oh là là, mais il y a des étudiants partout, faites quelque chose, ça ne va pas du tout. » Et donc, très rapidement, on décide de monter, en fait, cette commission avec l'accord du président et ma collègue Nora Zrida. Ça c'était il y a 4 ans. Et puis, tout doucement, on a créé un centre de solidarité. Et puis, aujourd'hui, on a 5 employés. Et on a déjà aidé quasiment 1000 étudiants au cours de ces 4 dernières années.
Alors peut-être nous présenter rapidement les grands domaines d'intervention et l'équipe, évidemment, qui est au cœur de ce dispositif.
Alors, déjà, je vais vous parler des aides concrètes qu'on apporte à nos étudiants. Donc pour nous, la priorité, c'est l'aide au logement. Parce que quand un étudiant nous dit « Écoutez, madame, je ne sais pas comment je vais étudier, je vais me concentrer en cours parce que je ne sais pas où je dors ce soir. » Donc ça, c'est une vraie problématique. On a effectivement des étudiants qui étaient, quand on a commencé, dans la rue, dans les amphithéâtres, dans les squats. On les a tous sortis. Alors, évidemment, certains, on ne les connaît pas. Et peut-être que demain, on va nous dire « Ah, bah, y a des jeunes filles qui dorment dans une voiture. » Et ça, je ne le sais pas à l'heure où je vous parle. En tout cas, on va pouvoir aider. Donc pour ça, effectivement, on a mis en place des partenariats. Donc déjà, on travaille avec le CROUS. C'est notre partenaire numéro 1. Mais certains étudiants ne peuvent pas aller au CROUS pour diverses raisons, parce qu'ils ne sont pas boursiers, parce qu'ils n'ont pas aussi les moyens de payer un logement au CROUS. Ou peut-être aussi parce que leurs papiers administratifs ne sont pas en règle. On peut avoir également des étudiants internationaux qui arrivent et qui ont besoin effectivement d'un coup de pouce. Donc on va aider tous ces jeunes qui ne peuvent pas accéder justement aux chambres CROUS. Alors pour ça, on a des partenariats avec les Restos du Cœur. On a des chambres aux Restos du Cœur. On a un partenariat maintenant avec les Bureaux du Cœur également. On a un partenariat avec l'Arche. Et puis avec Grand Dijon Habitat où effectivement on peut avoir quelques chambres qui vont permettre de nous aider pour que ces jeunes puissent rapidement trouver un logement. Quand je vous dis rapidement, on ne laisse pas un jeune dans la soirée dire « Écoute, on se voit demain et puis je ne sais pas où tu dors ce soir. » Ça, ce n'est pas possible pour nous. Alors, quand vraiment on a des gros cas d'urgence comme ça, on a également des familles d'accueil, des gens qui ont la gentillesse pendant quelques nuits de garder donc nos jeunes à l'abri, en sécurité, le temps qu'on trouve une solution plus stable. Voilà. Donc ça, pour nous, l'aide au logement, c'est l'aide numéro une. Ensuite, il faut pouvoir manger. Voilà, c'est l'aide numéro 2 sur la pyramide de Maslow. Donc effectivement, l'aide alimentaire, on ne le fait pas parce qu'on a la chance sur nos campus d'avoir des épiceries étudiantes, donc Epicampus et La Fébia, qui font ça très très bien. Donc eux, ils ouvrent quasiment tous les jours de la semaine, sauf le samedi, même le dimanche, c'est ouvert. Et ils peuvent aider nos étudiants à avoir des paniers alimentaires. Nous, on donne juste les attestations pour que ces jeunes puissent fréquenter ces épiceries. Évidemment, hein, il faut vraiment être en difficulté pour aller dans ces épiceries. Donc, nous, on leur donne une attestation. Et puis, de notre côté, on a également des produits d'hygiène parce que c'est hyper important et c'est surtout très cher de s'acheter du shampoing, du gel douche et compagnie. Et c'est aussi important pour avoir un minimum de dignité et de confiance en soi que d'avoir des produits, effectivement, d'hygiène. Notre troisième point, c'est l'aide administrative, parce que quand on a 18 ans, bah, tout est compliqué, la demande pour la CAF, les complémentaires d'assurance maladie, avoir un compte bancaire, pour un étudiant international de renouveler un visa ou de vérifier si tous les papiers sont à jour. Donc on va les aider aussi au niveau administratif et au niveau également des transports. Donc pour ceux qui ont besoin de se déplacer pour aller sur des lieux de stage, d'alternance ou même des jobs étudiants, on va les aider financièrement à avoir des titres de transport. Effectivement, la société Keolis nous aide, est un partenaire également qui va nous aider à financer tout ça. Ensuite, on va également on va les remettre debout, on va dire. Une fois qu'on a résolu les problèmes de base, nous, pour nous, c'est important qu'ils se remettent debout. Donc pour ça, on va leur trouver un job étudiant adapté à leurs études. L'idée, c'est qu'ils finissent pas sur un vélo pour aller distribuer de la nourriture et qu'ils fassent ça à plein temps. C'est hors de question. Nous, on est l'université. On veut qu'ils aillent jusqu'au diplôme. Donc, on va trouver un job étudiant parce qu'ils ont besoin d'argent, mais adapté. Donc, en fonction des filières, par exemple, les étudiants qui sont en médecine, en première année de médecine, ils vont pas travailler pendant l'année, ils travailleront plutôt l'été. Tous les autres, on va essayer de leur trouver des petits boulots cohérents. Et on est le lien avec, effectivement, ces entreprises pour vérifier que tout se passe bien. On peut les aider également pour trouver des stages ou même des alternances, puisque comme vous le savez, il y a de plus en plus de formations en alternance et c'est très bien parce que ça permet à un étudiant de pouvoir effectivement étudier et travailler en même temps. D'ailleurs, moi-même, j'ai pris deux étudiantes en alternance pour m'aider au centre de solidarité. Et puis, effectivement, on va les aider au niveau de la santé parce qu'on a aussi des étudiants qui ont des problèmes de santé. Ça, c'est primordial parce que si, par exemple, on n'a pas une bonne paire de lunettes, eh bien, on ne peut pas bien suivre en cours. Hein. Si on a des problèmes de dents, bah, c'est très compliqué également. Tout ça, ça coûte très cher. Donc, on va les aider également avec la santé. On a des partenaires. On a mis également en place depuis très peu de temps, hein, depuis début septembre, en fait, une petite boutique solidaire gratuite pour nos étudiants. Où ils peuvent trouver, bah, par exemple, du linge de maison, hein, une serviette de toilette, du linge pour la literie, des vêtements, de la vaisselle, des fournitures scolaires, parce que c'est important et tout ça coûte très cher, et puis des produits d'hygiène également. Donc cette petite boutique, elle est totalement gratuite et elle est destinée à ses étudiants. Donc là, en ce moment, on est en train de faire des collectes pour des manteaux, voilà, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et puis, pour nous, ce qui est important, c'est l'aide à la réussite, parce qu'encore une fois, on est l'université. Donc, une fois qu'on a mis en place tous ces dispositifs, pour nous, la priorité, c'est qu'on arrive à les accompagner jusqu'au diplôme. Et pour ça, effectivement, donc, on a eu, grâce effectivement à la région, un projet rythme Bourgogne-Franche-Comté qui nous permet de les aider à aller jusqu'au bout de leurs études. Alors, c'est quoi exactement ce dispositif? C'est effectivement pour des étudiants, par exemple, qui vont étudier, mais travaillent en même temps, ils peuvent effectivement avoir un peu de retard pour réviser, pour la compréhension. Donc, on peut mettre en place des tutorats. Voilà, et des cours particuliers avec leurs enseignants, de façon à pouvoir les aider, effectivement, à mieux travailler, à avoir des méthodologies de travail également, pour aller vraiment jusqu'au diplôme. Alors, il y en a qui s'en sortent très bien. On a des jeunes qui étaient à la rue, qui finissent major de promotion. Hein. C'est incroyable, hein. C'est des jeunes, voilà. Mais pour certains, tout associé, les études, le travail, c'est difficile. Donc, on leur donne ce petit coup de pouce avec ces cours particuliers. Et puis, on va un peu plus loin, puisqu'on a également une plateforme qui va apparaître là au mois de novembre, qui s'appelle Talent Gagnant, qui va aider nos jeunes, nos jeunes vraiment méritants, à trouver un emploi s'ils ont fini leur formation, ou un stage ou une alternance. Donc, et là, on va travailler directement avec la CPME et le MEDEF pour aider nos jeunes à trouver, effectivement, grâce à leurs compétences, ben voilà, un stage, une alternance ou un premier emploi, effectivement,
d'accord. Avant de présenter les moyens dont vous disposez, l'équipe, etc., et peut-être un peu les questions de financement, vous avez abordé deux sujets fondamentaux. Un, c'est la question du temps entre le travail et les cours, puisque je sais que dans les grandes universités, c'est le gros problème. Je sais que dans beaucoup de McDo, j'en ai fréquenté il n'y a pas très longtemps à Paris, des jeunes commencent en essayant de trouver une solution, puis finalement, ils finissent à McDo parce qu'ils n'arrivent plus à suivre leurs cours et ils décrochent. Mais aussi parce qu'ils n'ont pas de tutorat. Donc, c'est le deuxième point. Bon, il y a une question à travers ce que je viens de dire, bien entendu. Le deuxième point, c'est le tutorat. Vous réintroduisez une notion de quelque chose qui manque énormément encore dans l'université française. Alors, est-ce que ce tutorat, parce que je sais que la question, on me la posera, est-ce que ce tutorat aussi peut être, comment dire, utilisable par d'autres étudiants qui sont pas, qui rentrent pas par la difficulté matérielle, par la misère à un moment donné, la pauvreté, l'absence d'éléments de base? C'est-à-dire que est-ce que ce tutorat, vous allez finalement l'inscrire comme une logique globale d'accompagnement des étudiants qui, même s'ils ne connaissent pas ces difficultés-là, au moment où vous les prenez en charge, ont besoin de ce tutorat parce qu'ils se noient, même s'ils ont quelques moyens financiers pour subvenir à leurs besoins?
Alors déjà, sur nos composantes, hein, donc dans tous les secteurs de l'université, il y a déjà énormément de tutorats qui sont mis en place. Hein, en droit, en médecine, il y a déjà énormément de dispositifs qui existent avant nous, hein, qui ne datent pas d'hier.
Et qui fonctionnent.
Qui fonctionnent, voilà. D'accord. Nous, de notre côté, on aimerait pouvoir étudier tout et aider tous les étudiants de l'université. Mais c'est une histoire de moyens également. Et puis d'autre part, la commission solidarité, en fait, elle s'inscrit dans un accompagnement global de l'étudiant. Donc en fait, les étudiants qu'on suit, on les suit sur tous les niveaux. Et on ne peut pas prendre en plus d'autres étudiants. Déjà, on n'a pas les moyens de parce qu'il faut payer les enseignements. Il faut payer les tuteurs. Donc, on aimerait, franchement, ça serait dans un monde idéal, on aiderait tous les étudiants, et ce, quelles que soient leurs difficultés ou pas de difficultés. Mais je n'ai pas les moyens de le faire.
Mais là, vous venez de parler de choses importantes, c'est le financement des intervenants.
Oui.
Vous n'avez pas de bénévole en tutorat, c'est compliqué.
On a les deux. Alors, on a les deux.
Je parle du tutorat par rapport aux cours et au métier. Hein. Je ne parle pas du tutorat... Je ne parle pas du soutien matériel, hein, c'est autre chose.
Oui, donc, alors, effectivement, on a eu justement un projet qui nous permet, effectivement, avec Rythme, d'avoir, effectivement, de pouvoir acheter des fournitures scolaires indispensables, voilà. Mais également, cet argent nous sert en partie à payer des enseignements. Et on a également la chance d'avoir des tuteurs qui le font de façon bénévole. On a un peu les deux. Mais on va rémunérer des enseignants et puis on aura également des tuteurs qui le feront de façon totalement bénévole. On a également des enseignants qui le font également bénévolement. Par exemple, on a des petits cours d'anglais pour des filières scientifiques où là, on va mettre juste 3-4 jeunes. Et puis, il peut y avoir d'ailleurs un étudiant par exemple, en Master 2, par exemple, qui est bien avancé et qui maîtrise parfaitement la langue anglaise et qui va justement lui-même s'investir et donner des enseignements à des camarades, voilà, par exemple. Donc en fait, on a un peu les deux formules pour répondre à votre question.
Oui, puis il est possible que les gens aidés ou des étudiants eux-mêmes se mobilisent pour leurs camarades. Enfin, je pense que
oui, vraiment, c'est une grande chaîne. Oui, voilà. On montre également cette chaîne de la solidarité. C'est, hein, c'est quelque chose de vertueux, hein, ce qu'on met en place.
Alors la question évidemment qui me vient, parce qu'elle viendra de toute façon... Après cette émission, c'est une question à la fois de dignité et de moyens, parce que l'argent, il en manque toujours. À un moment donné, en fonction de l'évolution de chacun et chacune des étudiants, est-ce qu'ils mettent la main à la poche ? C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours gratuit ? Ou est-ce que quelque part, soit en termes de dignité, mais en termes aussi de solidarité, ils vont payer un euro, enfin un peu, pour symboliquement marquer leur... finalement, leur rôle d'acteur dans le système ?
Alors, il y a plusieurs points. Donc déjà, pour nous, le challenge, c'est de les aider une année seulement. C'est-à-dire qu'au bout d'une année, ils doivent être totalement autonomes. C'est-à-dire qu'on doit mettre en place tout ce qui est nécessaire. Alors, si c'est 6 mois, c'est 6 mois, c'est formidable. OK. On va les accompagner une année. Et en général, les jeunes qu'on accompagne une année, c'est-à-dire sur tous les dispositifs dont je vous ai parlé, l'année d'après, ils deviennent autonomes parce qu'ils ont un compte bancaire qui leur permet de vivre correctement. Et puis, ils ont repris de l'assurance parce que nous, on travaille beaucoup justement pour les remettre debout, pour qu'ils puissent reprendre confiance en eux. Donc, ça dure à peu près, effectivement, une année. Alors, ces jeunes, ils sont également, ils sont investis également pour aider leurs camarades l'année d'après. Souvent, ça les touche, hein, ce qu'on fait. Ils sont très reconnaissants. Ils savent à quel point l'aide était importante. Et effectivement, l'année d'après, eux-mêmes vont s'investir. Alors, la main à la poche. Ils vont le faire pas avec nous. Ils vont le faire avec les épiceries alimentaires. Donc, par exemple, à la FEBIA, et c'est aussi un dispositif que je trouve très intéressant. C'est-à-dire, effectivement, de pouvoir payer, c'est aussi de garder sa dignité. Et ça, c'est la FEBIA l'a très bien fait. Effectivement, ils vont pouvoir aller se servir dans cette épicerie, mais avec des coûts qui correspondent à 10% du prix du marché. Donc, ils ont quand même l'impression qu'ils payent leur nourriture ou leurs produits d'hygiène. Voilà. Nous, dans le centre de solidarité et dans la boutique solidaire, là, c'est vraiment plus destiné à des jeunes qui n'ont rien, qui vont démarrer. Mmh. On va leur donner un trousseau de rentrée avec tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Et il y a un moment précis où ils n'ont rien. Donc là, non, on ne va pas. Puis d'ailleurs, c'est des dons. Donc moi, je ne vais pas faire payer des dons qu'on nous fait parce que c'est, voilà, ça ne se fait pas. Enfin, c'est juste pas possible. Et pour nous, c'est vraiment important. Puis alors, on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires, une soixantaine, qui nous font énormément de dons. Et voilà, et qu'on peut redistribuer à tout. Mais alors on les distribue à nos étudiants, mais pas que. Hein, ils sont aussi destinés à d'autres étudiants qui, voilà, qui ont besoin d'un petit coup de pouce. D'ailleurs, nous, c'est un peu notre logo, c'est le coup de pouce. Donc, on peut leur donner un petit coup de pouce, effectivement, s'ils ont besoin à un moment précis et s'ils ne sont pas forcément en précarité, mais qu'une vie d'étudiant, bah, c'est quand même une vie qui est difficile. Hein. On n'a pas des gros moyens. Je ne connais pas beaucoup d'étudiants qui ont des gros moyens, sauf si vraiment ils ont des parents très, très riches. Mais c'est vraiment très, très peu, finalement.
Avant de faire un petit point sur l'équipe, parce que c'est quand même important, il y a des compétences derrière tout ça, et un petit bilan, premier petit bilan, j'aimerais qu'on parle de la santé, parce que j'ai vu que ça fait partie de vos axes de travail, parce qu'on dit, les spécialistes, les enquêtes montrent qu'il y a quand même des difficultés au niveau de la santé mentale. Mmh. En tout cas, c'est peut-être mieux pris en compte, c'est peut-être pas quantitativement aussi plus important qu'on il y a une confusion actuellement, bon, il y a différentes approches, mais je pense que c'est un point très sensible. Donc, et là, pour le coup, une année, des fois, ce n'est pas suffisant. Donc, comment vous faites pour, en quelque sorte, permettre à ces étudiants d'oser aller rencontrer quelqu'un pour parler de leur difficulté, leur souffrance, et puis peut-être engager des choses qui vont durer plus longtemps, dont ils ont besoin, parce que la situation est critique.
Alors, nous ne sommes pas des spécialistes de la santé. Mais sur le campus, nous avons la chance d'avoir un service de santé étudiante où il y a des médecins, des infirmiers, des psychologues, voire quelques spécialistes. Donc effectivement, dès qu'on sent une fragilité, pour un étudiant français, on a également des étudiants internationaux qui viennent de zones de guerre, où c'était très compliqué, où ils ont vécu des horreurs. Donc on va les renvoyer vers notre service de santé. D'ailleurs, on a une référente santé dans notre commission de solidarité, qui est d'ailleurs la directrice du centre de santé. Donc effectivement, il va y avoir très rapidement des rendez-vous qui vont être pris avec ou des psychologues pour traiter les problèmes, on va dire, de manque de confiance, de fragilité, voilà. Et puis, on a d'autres psychologues qui s'appellent Parents Long Chemin, qui sont des psychologues des zones de guerre et qui vont savoir comment parler à un étudiant qui est passé, par exemple, par la Libye ou le Tchad ou des pays très compliqués, voilà, pour pouvoir les accompagner le mieux possible. Donc, c'est pas notre métier et on a des spécialistes. Et eux, ils les prennent en charge. Donc effectivement, en fonction de la difficulté, ils vont mettre en place des dispositifs adaptés, un suivi.
Ça sous-entend donc que votre équipe a des compétences en termes d'information, d'orientation, de diagnostic à minima. Oui. Peut-être en dire un mot de cette équipe.
Alors cette équipe formidable, vraiment, je suis très fière de mon équipe. Alors cette équipe, elle a commencé avec Nora Zrida, qui est retraitée, qui était prof de sport, je vous en ai parlé. Cette femme, ça fait 20 ans qu'elle aide les jeunes qui sont à la rue. Pour moi, c'est une sainte. Elle est en retraite, mais elle doit être encore à 60 heures semaine pour vous donner un petit peu une idée de son investissement. C'est dans son ADN d'aider les jeunes, mais vraiment, c'est vital pour elle. Donc, on a pu recruter deux accompagnateurs sociaux donc pour l'aider, elle. Donc, des gens qui sont un peu dans la même veine, hein, qui sont vraiment, alors, qui ont une formation, de, et puis d'autre part, qui ne comptent pas leurs heures. C'est pas, ah bah là, il est 20h, il y a un étudiant qui arrive, bah écoutez, on se verra demain. C'est, y a pas d'horaire, en fait. Hein, c'est des gens qui sont très investis. J'ai également une gestionnaire, hein, qui va m'aider un petit peu pour une petite secrétaire à mi-temps. Et puis, donc voilà, on a recruté deux jeunes alternantes, donc Camille qui est à côté de moi, voilà, qui va s'occuper de la partie communication qui est importante, mais également, je ne vous en ai pas parlé, des événements solidaires. Parce qu'on fait des événements solidaires, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand on est en difficulté financière, ben on ne sort pas, parce qu'on n'a pas les moyens de sortir. Donc, on ne connaît pas beaucoup de monde. Hein, on est un peu isolé. Donc en fait, pour sortir, et ça fait partie du bien-être dont on vient de parler, justement, de la santé mentale, pour se sentir bien, bah, c'est quand même bien d'avoir des camarades, de pouvoir échanger avec d'autres étudiants, de ne pas se trouver tout seul dans sa toute petite chambre. Donc effectivement, on fait des événements solidaires très importants. On en fait 4 par an, où effectivement, on va accueillir jusqu'à 500-600 étudiants, où on va, pendant ces événements, effectivement, leur offrir tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Mais également, on leur fait des soirées festives avec un dîner, un repas. On peut leur mettre de la musique également. Donc par exemple, pour Noël, hein, le 13 décembre, on organise un événement important où il y aura le Père Noël, il y aura plein de cadeaux. Et puis, on invite également des personnes âgées, parce que le lien intergénérationnel, c'est très important pour nous. Donc on invite depuis 3 ans donc des personnes âgées des villages bleus qui sont un peu isolés eux aussi. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe un peu magique entre les étudiants et ces personnes âgées, parce que en fait, effectivement, ils ont besoin les uns des autres. Et donc on invite tout le monde. On a la chance sur notre campus d'avoir un orchestre symphonique avec 70 musiciens qui nous feront un concert à Noël de 45 minutes. Donc incroyable, ils sont déjà venus l'année dernière, et ça d'avoir un concert en live, c'est incroyable. Ensuite, on a un repas et on a un DJ qui est avec nous depuis 3 ans, DJ Marco, qui vient faire danser tout le monde, personnes âgées, nos anciens, enfin c'est plutôt super chouette. Donc Camille, elle est là, donc mon alternante, pour m'aider à mettre en place ces événements, parce que c'est des gros événements qui demandent 3 mois de travail, on en fait plusieurs dans l'année. Voilà. Et puis on a pris également une deuxième alternante, Marine, qui va nous aider pour justement le suivi des études dont on a parlé, très important, mais également l'accompagnement vers la recherche d'emploi, de stage ou d'alternance avec la plateforme qu'on est en train de monter avec Akios qui s'appellera Talent Gagnant, qui va bientôt arriver. Voilà.
Donc je pense qu'on a l'occasion de se revoir justement pour parler de ces questions d'accompagnement scolaire, ce qui me paraît quand même fondamental. Quelques éléments de bilan, un ou deux chiffres clés de votre activité ?
Alors, la première année, donc en 2021, on a pu aider 100 d'étudiants. Voilà, on est monté à 300. Maintenant, là, par exemple, sur la rentrée, on est quasiment sur 1,5 mois, on est déjà à 400 étudiants qui sont venus nous voir. Alors, on ne les a pas tous. On sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Après, il faut être courageux pour pousser la porte du centre de solidarité et dire, bah voilà, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, donc on essaye toujours d'être dans... c'est un petit coup de pouce, on ne parle jamais de précarité, jamais, parce que c'est un mot qui les effraie. Et puis, voilà, pour sa confiance en soi, c'est un peu compliqué. Donc on va leur dire, bah voilà, on va te donner un petit coup de pouce, le temps qu'il faut pour te remettre en selle et compagnie. Donc là, on est plutôt... Là, en 4 ans, on est quasiment à 1000 étudiants accompagnés. Alors accompagnés, c'est-à-dire... ils sont venus, on s'est assuré que tout allait bien, on les suit. C'est pas ils viennent une fois, on fait un petit bilan, c'est pas un centre d'accueil. Hein, c'est pas on vient, on règle un problème et bonne chance. Non, c'est tu viens, c'est quoi ton problème ? Et puis par contre, tu nous tiens au courant. Alors t'en es où ? Alors ton travail, tes études, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Là, ça va, t'as de quoi manger ? Là, tu dors où ? Voilà. Donc en fait, il y a un vrai accompagnement. Et c'est ça qui nous différencie peut-être de... d'autres structures qu'on peut retrouver dans d'autres universités. Hein, c'est-à-dire que c'est un service d'accompagnement.
Vous n'êtes pas un guichet.
On n'est pas un guichet. Hein, si on n'est pas un centre d'aide. Voilà. Donc c'est vraiment un accompagnement dans la globalité et jusqu'au résultat. Et d'ailleurs, à la fin de l'année, on fait un bilan pour savoir qui a eu son diplôme. Après, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas eu son diplôme qu'on est en échec, c'est-à-dire de dire « Ah, bah, c'était peut-être pas finalement une formation qui me convenait et on va les aider peut-être à trouver une autre formation ou même aller dans un BTS, par exemple, parce que l'université, c'est quand même difficile. Hein. Enfin, mais moi, je suis pas allée à l'université, je trouvais ça très dur, j'ai fait un BTS et j'en suis très, très contente. Ça m'empêche pas d'enseigner aujourd'hui à l'université. Pour autant, si on voit qu'il y a une faiblesse, plutôt d'aller droit dans le mur, et ben, on va trouver la solution avec bah, les lycées qui proposent des BTS dans nos régions pour vraiment accompagner jusqu'au bout nos étudiants, effectivement.
Voilà. Très bien. Je rappelle que nous sommes avec Madame Vézan, vice-présidente de l'Université de Bourgogne. Peut-être en conclusion de cette émission qu'il faut terminer, quelles sont vos principales perspectives, les nouveautés dans vos projets qui sont à retenir?
Alors, notre dispositif, il fonctionne. Hein, on a 4 ans d'expérience, tout fonctionne très bien. Donc là, dans nos projets, c'est déjà de créer des antennes de la Commission Solidarité sur nos sites délocalisés, dont je vous ai parlé, nos 6 sites de l'Université de Bourgogne. Première chose. À partir du mois de janvier, l'université devient l'Université Bourgogne-Europe. Hein, et on va avoir plein de partenaires. Hein, il va y avoir effectivement, l'université grandit, effectivement, avec ses partenaires, comme par exemple le CHU, le CGFL, la BSB, Sciences Po, les écoles ESEO, Polytech et compagnie. Donc en fait, on va grandir. Et aujourd'hui, nous avons déjà des étudiants qui viennent des autres établissements nous demander de l'aide. Et on ne peut pas leur dire non, même si ce n'est pas des étudiants de l'Université de Bourgogne. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on puisse également faire des antennes sur tous les autres établissements, au moins déjà de Dijon, qui feront partie de cette EPE, hein, établissement public expérimental, hein, qui sera l'Université Bourgogne-Europe, voilà, où effectivement, on pourra aider également tous nos partenaires pour tout ça. Et puis après, dans un troisième temps, j'aimerais convaincre le ministère de l'intérêt de nos dispositifs, de l'intérêt d'avoir monté ce centre de solidarité. Pourquoi ? Parce que d'autres universités nous appellent, se questionnent quand ils voient un petit peu nos publications et aimeraient mettre en place également ce genre de dispositif chez eux. Et moi, vraiment, dans mon rêve absolu, c'est que chaque université de France puisse avoir un centre de solidarité tel que le nôtre pour pouvoir aider le mieux possible tous les étudiants à travailler dans les meilleures conditions.
Très bien. Donc nous étions avec Madame Vanessa Vézan, vice-présidente de l'Université Bourgogne, déléguée au handicap à l'inclusion en solidarité. Nous avons parlé de la commission solidarité étudiante de l'université qui est un dispositif unique actuellement en France. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà, vous étiez donc dans Ma ville, ma région, une émission de Shalom Bourgogne. À bientôt sur Shalom Bourgogne.